Et nous sommes en direct avec Benjamin Capelli, juriste, et Sarah Lambert, étudiante en droit. Bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Oui, très bien, et vous ?
Ah bah oui, ça va. On est à l'approche des fêtes,
oui.
Donc on est heureuse. Alors vous êtes tous les deux membres de l'association FCQE Choisir, une association de protection des consommateurs. Et aujourd'hui, vous nous en dites plus sur les fraudes bancaires. On vous écoute.
Alors, phishing, arnaque aux faux conseillers bancaires, aux faux supports techniques, aux faux virements, aux faux RIB. Donc, les tentatives de fraude bancaire se sont multipliées ces dernières années et peuvent coûter très cher aux victimes. Elles sont particulièrement présentes pendant les fêtes, hein, et il convient donc d'être vigilant. Alors, voici nos conseils pour les reconnaître et réagir au plus vite et au mieux. Alors, Sarah, déjà, qu'est-ce que c'est que déjà que le phishing ?
Alors, le phishing ou hameçonnage, oui, c'est ça ? consiste pour des personnes malveillantes à envoyer des courriers frauduleux afin d'obtenir des données personnelles et soutirer de l'argent à leurs victimes. L'escroc se fait passer pour une personne de confiance, telle qu'un ami, un membre de la famille, ou un organisme que vous connaissez, les impôts, la CAF, votre opérateur téléphonique, etc. Et il vous invite à confirmer vos coordonnées ou à les mettre à jour en indiquant sur un lien aboutissant sur un site internet. Pour les éviter, voici quelques conseils. Tout d'abord, vérifiez l'adresse de l'expéditeur en passant votre pointeur de souris sur le nom de l'expéditeur du message pour voir son adresse mail complète. Traquez les éventuelles fautes de grammaire, d'orthographe, voire de syntaxe. Ne cliquez pas sur un lien qui ne semble pas cohérent avec l'objet du courriel. Ne pas vous fier au logo officiel, ils sont faciles à reproduire. Ne pas valider d'opérations dont vous n'êtes pas à l'origine. Gardez en tête qu'aucun organisme officiel ne vous demandera de communiquer vos coordonnées bancaires en répondant à un email. Au moindre doute, ne répondez pas et transmettez aucune information personnelle. Alors Benjamin, qu'est-ce que l'arnaque aux faux conseillers bancaires ?
Alors dans ce cadre-là, c'est une personne qui va vous contacter, le plus souvent donc par téléphone, en se faisant passer pour un conseiller ou un salarié de votre banque. Donc elle va prétendre que vous êtes actuellement victime de paiements frauduleux. Et l'interlocuteur va vous mettre en confiance parce qu'il va connaître de nombreuses informations sur vous, donc votre identité, votre numéro de compte, le nom de votre conseiller bancaire, voire plus. Puis il vous indique qu'il est urgent d'agir afin de contester les paiements. L'escroc vous demande alors de lui communiquer des informations bancaires ou de valider des opérations sous prétexte de les annuler par la suite, ce qui n'est évidemment pas le cas. En réalité, votre banque ne vous demandera jamais de communiquer des informations par téléphone ni de valider des opérations à distance. Dans tous les cas, nous invitons à raccrocher rapidement et à ne pas transmettre d'informations, ni cliquer sur un quelconque lien. Le mieux est encore de contacter votre conseiller bancaire ou le service fraude par votre propre moyen. Alors Sarah, ensuite, c'est l'arnaque aux faux RIB en ce moment qui sévit.
Alors l'escroc profite du fait que vous êtes en relation avec une entreprise ou une personne à qui vous devez de l'argent. Celle-ci vous adresse un RIB par courriel et une facture en pièce jointe afin de procéder au règlement. Ce courriel est intercepté par l'escroc en piratant soit votre adresse mail, soit celle de votre créancier, pour remplacer le RIB de votre créancier par le sien. Vous recevrez le courrier modifié dans lequel seuls ont été modifiés le RIB et l'adresse mail de l'expéditeur, et procédez ainsi au virement avec le RIB reçu. Les fonds sont en réalité transférés directement à l'escroc et non à votre créancier. Afin de procéder au paiement, nous vous conseillons d'essayer d'obtenir au préalable les coordonnées bancaires par remise physique, de vérifier que l'adresse courriel de l'expéditeur est identique à celle utilisée lors des précédents échanges, de vérifier les coordonnées du RIB. Pour une banque française, l'IBAN commence automatiquement par FR. Au moindre doute, n'hésitez pas à contacter directement le professionnel pour confirmer les coordonnées bancaires avec lui. Alors Benjamin, quels sont les recours ?
Alors, tout d'abord, il faut signaler sans tarder les opérations que vous n'avez pas autorisées à votre banque. Et en cas de transmission des coordonnées de votre carte bancaire, faites également opposition à votre carte. Ensuite, contestez l'opération et demandez le remboursement auprès de votre banque. En cas d'opération non autorisée, le principe est celui du remboursement. En revanche, dans le cas d'agissement frauduleux ou de négligence grave de votre part, la banque n'est plus tenue de vous rembourser. Pourtant, même en pareil cas, elle doit prouver l'existence de ses manquements. En tout état de cause, elle ne peut se contenter d'évoquer l'hypothèse d'un phishing pour refuser de vous rembourser. Si vous avez vous-même validé les opérations, il est probable que la banque vous oppose le fait qu'il ne s'agit pas d'une opération non autorisée, car vous avez vous-même accepté l'opération via l'application de votre téléphone, par exemple. Dans ce cas, les recours sont plus compliqués. Attention également, pour les arnaques aux faux RIB, la responsabilité des banques est très limitée, car elles n'ont pas l'obligation de vérifier l'adéquation entre le nom mentionné sur le RIB et celle du détenteur du compte. En cas de virement vers un tiers, donc, la banque pourra simplement tenter une procédure dite de recall qui peut parfois permettre un retour d'une partie des fonds si cela se fait rapidement. Alors Sarah, ensuite, la banque peut-elle exiger un dépôt de plainte pour traiter ma demande ?
Alors, nous constatons que les banques conditionnent souvent le remboursement à un dépôt de plainte préalable. Or, les services de police et de gendarmerie sont débordés par ces dépôts de plainte et refusent parfois de prendre la plainte de la victime de fraude bancaire. En tout état de cause, la banque ne peut pas exiger un dépôt de plainte pour traiter votre demande de remboursement. Cette formalité n'est pas imposée par la réglementation. Vous pouvez signaler les fraudes à la carte bancaire directement en ligne avec le téléservice Perceval via le site service-du-6public.fr. Le signalement n'est pas un dépôt de plainte, mais il permet de centraliser les déclarations de fraude bancaire pour aider les services de police. De plus, un récépissé est délivré. Vous pourrez le présenter à votre banque à l'appui de votre demande de remboursement. En parallèle, il existe également, depuis le 15 mars 2022, la plateforme TZ, aussi accessible depuis le site service-du-6public.fr. Par ce biais, il est possible de déposer plainte en ligne pour les escroqueries. Attention, le phishing n'est pas inclus dans le service de plainte en ligne. Benjamin, puis-je demander un dédommagement à ma banque si ma banque refuse de me rembourser sans fondement ?
Alors par principe, dès lors qu'une opération non autorisée est signalée à la banque, cette dernière est tenue de procéder immédiatement au remboursement de la dite opération et au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant. Cette règle comporte une exception. Si la banque a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et si elle communique ses raisons par écrit à la Banque de France. Autant vous dire que ce n'est pas fait souvent. La banque doit, en plus du montant de l'opération contestée, vous rembourser les frais qu'elle a pu provoquer, notamment si votre compte a été à découvert. Enfin, depuis le 19 août 2022, des pénalités sont également prévues en cas de retard dans le remboursement. Alors, il s'agit en fait d'une majoration de la somme due avec un taux d'intérêt légal correspondant donc au taux d'intérêt légal majoré de 5 à 15 points. Alors pour info, fin 2022, le taux d'intérêt légal c'est 3,15%. Et pour conclure, Sarah.
Alors, pour conclure, si vous êtes victime d'une escroquerie de ce type, il faut avant tout être le plus réactif possible pour tenter de limiter au maximum votre préjudice. Il est également possible que des opérations soient réalisées sans que vous le sachiez. C'est pourquoi il faut régulièrement vérifier ses comptes et lire attentivement son relevé de compte, même si cela peut paraître fastidieux. Si vous réagissez trop tard, cela pourra vous être reproché par votre banque. Il existe des recours prévus par la loi en cas d'opération non autorisée, comme nous l'avons vu. Il est également possible d'engager la responsabilité de la banque si elle a manqué à son devoir de vigilance quand les opérations apparaissent manifestement anormales ou qu'elle dépasse le découvert autorisé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à solliciter notre association ou toute autre association de consommateurs.
Merci beaucoup. C'est quelque chose de très intéressant, surtout en ce moment où c'est les fêtes et où on peut faire beaucoup d'achats, notamment via Internet. Donc ça aussi, faut faire attention peut-être...
Toujours faire attention, et quand on fait des achats sur Internet, il faut se méfier, notamment quand on demande des paiements par des virements alors que ce n'était pas prévu initialement. Ça, c'est en général un piège. Se méfier aussi des achats qu'on peut faire via des sites qu'on aurait vus sur les réseaux sociaux parce qu'ils ne sont pas forcément très sécurisés et on donne nos coordonnées bancaires. Après, ça peut se balader un peu n'importe où. Donc oui, il faut être très vigilant, il existe tout un tas de choses, c'est pareil. Là, en ce moment, si vous recevez des SMS parce que vous attendez des colis, faites attention de savoir si c'est bien le SMS de Colissimo ou d'un autre transporteur, parce qu'il y en a des faux. Il y a même des faux avis de passage qui sont déposés dans les boîtes aux lettres, alors attention aussi.
Ah oui, ça va jusque-là.
Ça va jusque-là, oui.
Ok. En tout cas, merci beaucoup. Et puis d'ailleurs, l'année dernière, il me semble que vous aviez fait une chronique sur les achats sur Internet. Donc,
exactement.
Bien sûr, on peut se référer aussi au site campusbesançon.fr où on retrouve toutes vos chroniques.
Eh bien, donc merci à vous deux, Benjamin Capelli, juriste, et Sarah Lambert, étudiante en droit, pour ces explications. Bonne fête de fin d'année à vous.
Bonne merci. Fête à tout le monde aussi.
Donc, on vous retrouve l'année prochaine, en janvier. Donc, on vous le rappelle, vous êtes membre de l'association de protection des consommateurs, UFC Que Choisir.